Radio Prague, les informations.
Bonjour les amis et bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'informations. Les principaux titres ce vendredi. Le Tchèque rentré de Corée du Sud ne serait pas contaminé par le virus MERS. Tchèque et Allemand signent un accord sur le dialogue stratégique. Et du cinéma, c'est le début du festival de Carlo Vivari. Les analyses médicales réalisées sur le Tchèque de 33 ans de retour d'un séjour en Corée du Sud au mois de mai n'ont pas permis d'établir une contamination par le virus MERS comme cela était soupçonné. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi aux journalistes le chef des services d'hygiène tchèque, Vladimír Valenta. 49 personnes qui avaient voyagé avec le guide touristique tchèque et qui avaient été préventivement placées en quarantaine sont également hors de danger. C'est le second cas en République tchèque où des analyses sont menées suite à des soupçons de contamination par ce virus qui a déjà tué 33 personnes en Corée du Sud. Selon les ministres des Affaires étrangères tchèques et allemands Lubomír Zaorálek et Frank-Walter Steinmeier, la signature ce vendredi à Berlin d'un accord sur le dialogue stratégique ouvre un nouveau chapitre des relations entre tchèques et allemands. Ce document vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans 9 domaines tels que la politique européenne et étrangère, la science, la recherche et l'éducation, l'énergie, le transport ou encore la lutte contre le trafic de drogue. La déclaration fait suite à un accord de bon voisinage entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie datant de 1992 et à un autre accord signé entre Tchèques et Allemands 5 ans plus tard. 12 sénateurs de partis d'opposition, tels que l'ODS ou les Verts, appellent dans une lettre le gouvernement à prendre une position ferme face aux manifestations de haine et d'intolérance qui ont eu lieu lors d'un rassemblement mercredi sur la place Venceslas à Prague d'une centaine d'individus contre l'islam et contre l'accueil de migrants en Tchéquie. Il est tout simplement inadmissible que des citoyens tchèques soient menacés de mort dans le cas où ils ne cèdent pas aux humeurs islamophobes, écrivent notamment ces parlementaires en faisant référence à la présence de potence dans la manifestation. Ils regrettent également que la police tchèque ne soit pas intervenue. Déjà jeudi, le ministre de l'Intérieur, le social-démocrate Milan Chovanec, a demandé à ce propos des explications à la direction de la police, indiquant que les menaces de mort et les potences n'avaient pas leur place dans une démocratie. Un contingent tchèque de 50 soldats est de retour de Mongolie où il a pris part aux exercices militaires multinationaux de Khan Quest organisé annuellement par les États-Unis. Cet entraînement est conçu pour maintenir la paix et la sécurité dans le nord-ouest de l'Asie. Les militaires tchèques ont entre autres fourni une formation à leurs collègues mongols. Selon l'ambassadrice tchèque en poste à Ulaanbaatar, Ivana Grolova, l'unité aurait été félicitée pour la qualité de son travail. Il a ainsi été demandé aux Tchèques de revenir assurer secours l'an prochain. Une page de cinéma maintenant. Ce vendredi commence la 50e édition du Festival international du film de Carlo Vivari. Des centaines de projections et des milliers de visiteurs. Il s'agit de l'événement culturel le plus important de République tchèque en termes de budget et d'affluence. Parmi les invités d'honneur figurent entre autres cette année les acteurs américains Richard Gere et Harvey Keitel. La jeune génération d'acteurs est représentée par le britannique Jamie Dornan qui va jouer le rôle du parachutiste tchèque Jan Kubiš dans le prochain film consacré à l'opération Anthropoïde et l'assassinat de Reinhard Heydrich à Prague. Le festival se termine le 12 juillet. On termine pour notre part avec la météo. Grand soleil ce samedi, jour tant attendu de la fête des Prokop dans une République tchèque qui fait face à des températures caniculaires pouvant atteindre jusqu'à 35 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous proposez Pierre Maignan. La suite du programme, c'est maintenant, en compagnie d'Anna Kubichta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Prague. Merci à Pierre Maignan pour son bulletin d'information. Le Tour de France commence samedi et cette année, pour cette 102e édition de la Grande Boucle, on compte un nombre record de cyclistes tchèques au départ. Le programme d'aujourd'hui, c'est aussi notre série de l'été qui se poursuit. Tout ceci, ce sera avant notre revue de presse de la semaine. Bonne écoute de ce programme. Pour la sixième fois de son histoire, le Tour de France s'élancera ce samedi des Pays-Bas et plus précisément de la ville d'Utrecht pour ce qui sera le 21e départ de la Grande Boucle depuis l'étranger. Cette 102e édition sera marquée par une participation record de coureurs tchèques, Leopold Koenig Sky, Roman Kreutiger pour Tinkoff Saxo, Jan Bárta, Bora Argon 18 et Zdeněk Štybar Etix Quick Step sont les quatre heureux élus à prendre part dès samedi à la plus prestigieuse des courses cyclistes. Pour nous parler de cette participation tchèque record, Benoît Rouzeau nous a rejoint en studio. Bonjour Benoît.
Bonjour Anna.
Alors qui sont donc ces quatre tchèques dont les noms pour au moins deux d'entre eux sont désormais bien connus des amateurs de cyclisme?
D'abord Anna, rappelons depuis l'édition 2002 avec la participation de Pavel Padelnos, Jan Zvorada et Tomáš Konečný, jamais le contingent des coureurs tchèques dans le peloton du Tour de France n'a été aussi fourni. Leopold Koenig, Roman Kreuziger, Jan Bárta et Zdeněk Štybar sont ainsi, vous l'avez déjà dit, en grande spécialiste de la petite reine que vous êtes, les quatre coureurs tchèques retenus pour participer à cette édition 2015 avec des rôles différents à tenir sur l'asphalte de l'Hexagone. Leader de la discipline en République tchèque, du moins pour ce qui est des courses à étapes et des trois grands tours que sont le Giro, la Vuelta et donc le Tour de France, Leopold Koenig et Roman Kreuziger tiendront donc d'abord un rôle de lieutenant auprès de deux des principaux prétendants à la victoire au classement général. Leopold Koenig et Roman Kreuziger épauleront respectivement l'anglais Christopher Froome, vainqueur en 2013 au sein de l'équipe Sky, et l'espagnol Alberto Contador, vainqueur lui en 2007 et 2009 au sein de l'équipe Tinkoff Saxo.
Dites-nous un peu plus, Benoît, sur ce Leopold Koenig en pleine progression ces deux dernières saisons.
Effectivement, Anna. Septième au général l'année dernière, sous les couleurs de l'équipe continentale professionnelle allemande NetApp Endura, Leopold Koenig, alors âgé de 26 ans, avait réalisé une première participation au Tour de France pour le moins convaincante et remarquée. Grâce à cette performance, le Tchèque avait ensuite décroché un contrat dans la prestigieuse écurie britannique Sky, qu'il avait recruté pour ses qualités de grimpeur. Cette année, Koenig sera chargé d'amener Christopher Froome le plus loin possible lors des ascensions. Et à en juger par sa sixième place lors du dernier Giro, nul doute que le grimpeur originaire de Moravie sera un rouage essentiel de la formation britannique, au même titre que l'Irlandais Nicolas Roche ou l'Australien Richie Porte. Néanmoins, on peut penser que si son équipe est aussi dominatrice que lors des éditions précédentes et que son leader Froome possède une avance confortable, Leopold Koenig devrait avoir la possibilité de jouer sa carte personnelle dans les Alpes en fin de troisième semaine.
En revanche, si Koenig est en pleine bourre, son compatriote Roman Kreuziger, lui, ne semble pas dans les mêmes dispositions à l'approche de son sixième Tour de France.
Finalement débarrassé du fardeau que constituait l'affaire de prétendu dopage après avoir été blanchi par l'Agence mondiale antidopage et l'Union cycliste internationale, début juin, une affaire qui a traîné à longueur et laminé moralement, Roman Kreuziger devrait se sentir libéré de l'épée de Damoclès qu'il avait au-dessus de la tête. Le Tchèque, lui aussi plutôt bon grimpeur, a terminé le dernier Giro à la 28e place à 1h47 du vainqueur Alberto Contador, son coéquipier. Avec Michael Rogers et Rafał Majka, Roman Kreuziger figure dans la garde rapprochée du leader espagnol de la formation russe Tinkoff Saxo, des hommes forts en mesure de le soutenir dans son pari de doubler Giro Tour de France, inédit depuis celui réalisé par Marco Pantani en 1998.
Loin de ses luttes au sommet, Jan Bárta et Zdeněk Štybar seront quant à eux en embuscade pour une éventuelle victoire d'étape.
Troisième du Tour de Bavière et tout frais champion en titre de République tchèque du contre-la-montre, Jan Bárta essayera de glaner son premier succès sur les routes de France. L'an passé, le rouleur originaire de Kiev, qui porte la tunique de la formation allemande Bora Argon 18, avait échoué de peu lors de la troisième étape entre Cambridge et Londres et était monté sur le podium lors de l'unique contre-la-montre. À 31 ans, son expérience pourrait permettre à Jan Bárta de se glisser dans les bons coups ou de faire à nouveau bonne figure dans l'un des deux contre-la-montre inscrits au programme, afin, qui sait, de cueillir cette victoire d'étape qui le fait tant rêver.
Et Zdeněk Štybar, donc ?
Enfin, à bientôt 30 ans, Zdeněk Štybar découvrira, lui, le Tour de France ce mois de juillet. Ce spécialiste émérite de cyclo-cross, dont il est triple champion du monde 2010, 2011 et 2014, devrait faire parler son coup de pédale dans les étapes dédiées aux baroudeurs, au profil un peu cassant de type classique du Nord. Un terrain de prédilection sur lequel il excelle, comme en atteste sa deuxième place décrochée lors du dernier Paris-Roubaix, soit la meilleure performance de l'histoire jamais réalisée par un Tchèque dans l'une des cinq grandes classiques. Zdeněk Štybar a sans aucun doute coché dans son carnet la quatrième étape qui reliera Seraing à Cambrai et comporte quelques secteurs pavés qu'il affectionne tout particulièrement. Sans véritable prétendant au classement général, sa formation Ethic Quickstep devrait lui laisser une marge de manœuvre considérable pour tenter d'accrocher une victoire d'étape. Et ce d'autant plus que l'homme d'affaires Zdeněk Bakala, propriétaire de la formation belge, aura certainement à cœur de voir l'un de ses compatriotes briller sur les routes de France.
Merci Benoît pour cet éclairage détaillé. L'épisode du jour de notre série estivale est une forme modeste d'hommage au peuple tunisien et à sa fragile démocratie une semaine après un nouvel attentat meurtrier sur une plage touristique de Sousse. Enregistré juste avant cette tragédie, ce coin de Prague est celui d'Oussama Ben Yedder, dont la tâche est devenue bien difficile. Il répondait aux questions d'Alexis Rosenzweig.
Je suis Oussama Ben Yedder, je suis tunisien de Tunis. Je suis représentant de l'Office national du tourisme tunisien à Prague, chargé de la promotion de la Tunisie sur la République tchèque et la Slovaquie.
Alors quand je vous ai demandé de choisir un de vos endroits préférés à Prague, vous avez été un des seuls, et même le seul, à choisir un endroit sur la place Venceslas, où on se trouve actuellement. Où est-ce qu'on est ?
On est au Café Comon. Ça ouvre sur l'artère principale de Prague. En fait, c'est un endroit que j'apprécie énormément parce qu'il représente vraiment la République tchèque. Quand on est ici, on voit le muséum et on voit la photo de Václav qui représente vraiment la Tchéquie moderne.
Václav Havel.
Ça me rappelle un peu aussi la Tunisie. C'est peut-être le père fondateur de la Tchéquie moderne. Pour nous, il y a Habib Bourguiba, qui avait peut-être les mêmes idées de libération, d'émancipation et d'égalité. Ici aussi, on peut voir à quel point cette cité est vivante, cette cité est cosmopolite. On voit les flux de touristes de tout genre qui se baladent sur le Nové Mesto avant d'aller sur la vieille ville. Et en fait, ça me rappelle aussi la Tunisie, l'avenue, ou bien la ville coloniale, la nouvelle ville française, juste à côté, la Médina arabe. Donc en fait, c'est tellement représentatif de la Tchéquie.
C'est vrai qu'on dirait un peu, maintenant que je regarde l'avenue Habib Bourguiba avec les arbres un peu bas comme ça.
Oui, absolument, ça me rappelle un peu les ficus, les arbres de Habib Bourguiba, et tout en se baladant, en fait, on trouve après la vieille ville, Stare Mesto, la Médina de Tunis. En fait, ça me rappelle ce que les touristes font à Tunis aussi, et c'est très sympa.
Et en fait, le point commun, c'est que l'avenue Habib Bourguiba à Tunis a été un point central pour la révolution de Jasmin. Et la place Venceslas, ici, sur laquelle on se trouve, c'était un des points de rendez-vous principaux pour la révolution de velours tchécoslovaque, avec le balcon sur lequel était Václav Havel et sur lequel il a fait un discours, qui est juste derrière nous.
Oh, c'est une très belle coïncidence. En fait, ce qui s'est passé à l'avenue Habib Bourguiba le 14 janvier 2011, c'était un jour mémorable pour la Tunisie, l'avenir de la Tunisie. En fait, c'était une journée charnière où les Tunisiens ont dit « stop, halt, dégage » au dictateur et sa famille.
C'est un peu ce qu'ils ont fait ici, ils secouaient leurs clés pour chasser le régime communiste. Et on est alors à l'hôtel Yalta, et ce qui est aussi assez remarquable, c'est qu'il y a un ancien, je ne sais pas si vous savez, un ancien abri anti-atomique dans les sous-sols qui servait de poste d'espionnage aux agents de la police politique.
Eh bien, je ne le savais pas. Merci pour l'information. Et en fait, sur l'avenue Habib Bourguiba, c'était aussi le ministère de l'Intérieur qui symbolisait la dictature du régime. En fait, les gens se sont rassemblés ce jour-là devant ce bâtiment, en fait, pas seulement moche, mais qui représentait vraiment la dictature et l'oppression du peuple tunisien pendant près d'un demi-siècle.
Est-ce qu'il y a d'autres endroits à Prague que vous aimez particulièrement ?
Eh ben, j'aime beaucoup Stare Mesto. J'aime beaucoup le côté du Pont Charles. Et juste derrière le Pont Charles, j'aime Andel. En fait, il y a une atmosphère particulière là-bas. Namestimiro, en fait, toutes les places de Prague sont tellement attrayantes. On est dans une ville européenne, une capitale, mais en fait, on sent pas le stress, on sent pas vraiment le rythme d'une métropole stressante. Ici, c'est très cool et les gens sont très accueillant. Et en fait, c'est une ville à taille humaine. En fait, on n'est jamais stressé, on ne court jamais derrière le transport public, etc. Et en fait, et le climat, il est merveilleux pendant ces jours-là. Donc, c'est parfait.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
On passe à la deuxième partie de notre émission. Deux anniversaires historiques ont été rappelés dans la presse de ces derniers jours. Le 27 juin, 65 ans se sont écoulés depuis l'exécution par le régime communiste de Milada Horáková, femme politique démocrate tchèque, et 70 ans depuis la mort de l'ancien président tchécoslovaque Emil Hácha, devenu injustement un des symboles de la collaboration pendant l'occupation nazie du pays. Nous vous présenterons les grandes lignes des textes qui y ont été consacrés, un sujet historique aussi avec le rappel du sauvetage de centaines d'enfants d'origine juive par Sir Nicholas Winton, qui est décédé ce mercredi 1er juin à l'âge de 106 ans. Deux ou trois mots d'actualité enfin concernant le boom des centres commerciaux en Tchéquie. Alena Gebertova pour cette revue de presse.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Dans un texte publié dans l'édition de samedi dernier du quotidien Lidové noviny, Daniel Herman, ministre de la Culture, souligne que l'on ne saurait oublier de rappeler l'exécution de Milada Horáková, un des assassinats juridiques les plus monstrueux de l'histoire du totalitarisme en Europe centrale, car le risque de perdre la mémoire du passé est actuellement trop grand. Il explique pourquoi.
On assiste à des tentatives de réinterpréter le procès de 1950 avec Milada Horáková, monté de toutes pièces par les autorités communistes, et à des tendances visant à replacer le verdict brutal prononcé à son égard dans le contexte de l'époque, une façon sinon de le légitimer, à tout le moins de l'expliquer. Or, on sait que ce qui peut être expliqué peut être également compris.
Daniel Herman rejette avec détermination toute tentative consistant à dépersonnaliser l'histoire de Milada Horáková et d'en faire tout simplement un phénomène ayant accompagné la délimitation des sphères d'influence géopolitique dans l'Europe centrale de l'après-guerre. Plus loin, il cherche des parallèles entre le destin de cette femme politique et celui du réformateur tchèque Jan Hus, dont on commémore le 6 juillet les 600 ans qui se sont écoulés depuis sa mort sur le bûcher. Il constate.
Dans ce contexte, il n'est pas déplacé de trouver certaines analogies entre les parcours de Jan Hus et de Milada Horáková, car ils sont demeurés tous les deux fidèles à leurs convictions et à leur conscience. Ils ont vécu en quelque sorte un drame identique, le drame d'un individu qui est confronté à la machinerie du pouvoir.
Le dernier supplément Orientace du quotidien Lidové noviny a publié dans ses pages un texte dans lequel son auteur, l'historien Josef Tomeš, réfléchit au destin tragique d'une autre personnalité tchèque, l'ancien président Emil Hácha, pour lequel 70 ans se sont écoulés depuis sa mort ce même 27 juin. Rappelons que Hácha, juriste brillant, a été élu en 1938 à l'âge de 66 ans, troisième président tchécoslovaque, tandis que, dans une situation difficile, sa candidature a été soutenue par l'ensemble du spectre politique. Hácha lui-même n'en voulait pas et a refusé cette fonction avant de l'accepter comme un sacrifice au profit de la nation. À ce sujet, l'auteur a écrit.
Hácha s'est retrouvé à la tête d'un État mutilé, menacé de l'intérieur et de l'extérieur, luttant désespérément pour sa survie. Mais ses efforts ont été vains. Dans la nuit du 14 au 15 mars, Adolf Hitler l'a contraint, sous une pression brutale, à signer un document légitimant l'occupation allemande des pays tchèques. Le lendemain, le protectorat de Bohême et de Moravie, dont Hácha allait devenir président d'État, a été proclamé. Hácha, un homme à l'époque vieux et malade, aurait pu démissionner et se retirer, mais dans une situation grave, il n'a pas voulu fuir ses responsabilités, préférant chercher un modus vivendi avec les occupants afin de permettre à la nation tchèque de survivre en attendant le retour de la liberté.
Hácha mettait son influence et ses possibilités au profit des interventions en faveur des Tchèques persécutés. Ainsi, il a par exemple réussi à obtenir la libération de près de 1200 étudiants envoyés dans le camp de concentration de Sachsenhausen. Ceci dit, au lendemain de la fin de la guerre, le 13 mai 1945, Emil Hacha est arrêté et meurt quelques semaines plus tard dans l'hôpital de la prison de Pankrac à Prague. En ce qui concerne la perception ultérieure de Hacha dans la société tchèque, l'historien Tomáš écrit.
Une fois mort, Emil Hacha est devenu l'objet d'accusations injustes et d'insultes, notamment de la part des gens qui, sous le protectorat, n'avaient pas fait preuve d'un grand courage. Les résistants, quant à eux, ont souvent pris sa défense, mais le plus souvent, ils ne pouvaient pas le faire publiquement en raison du climat prédominant. Cet ostracisme s'est par la suite durablement enraciné dans l'opinion publique, soumise à toutes sortes de démagogies, de semi-vérités et de schémas politiquement motivés. Ce n'est qu'après la chute du régime communiste, en 1989, qu'Emil Hacha a pu être jugé à sa juste valeur et son rôle réévalué. Le tout sur la base de travaux d'historiens, de recherches de journalistes, de films documentaires et de programmes télévisés ou radiophoniques.
La presse de ces derniers jours a réservé une grande place au décès de Nicholas Winton, 106 ans, qui a sauvé en 1938 et 1939 la vie de 669 enfants tchécoslovaques d'origine juive en organisant leur convoi ferroviaire depuis Prague vers Londres. Dans une note publiée sur le site eco24.cz, Martin Weiss a à cette occasion remarqué.
Nicholas Winton a fait partie d'une poignée de personnes qui ont sauvé pendant la Deuxième Guerre mondiale un grand nombre de Juifs. Aucun de ses destins n'était ordinaire. Oskar Schindler, qui est le plus souvent évoqué en rapport avec Winton, était une figure assez problématique. Quant à la fin de Raoul Wallenberg, on sait seulement qu'il a disparu en Union soviétique et nul ne peut dire ce qu'il est advenu de lui. Le journaliste américain Varian Fry, qui a sauvé dans la France vichiste au moins 2000 Juifs et antifascistes, s'est illustré en se concentrant sur des élites de l'avant-garde artistiques et scientifiques, mais ils avaient tous un trait commun. Ils ont convaincu les autres, par leur détermination, de faire aboutir ce qui aurait pu paraître impossible. Nicholas Winton a été certes le plus heureux d'entre eux, vivre jusqu'à l'âge de 106 ans, avec en plus le sentiment d'avoir su relever un défi fatal, signifie avoir vécu une belle vie.
L'auteur du texte rappelle que durant ces dernières années, Winton est devenu en Tchéquie une véritable légende, grâce à l'initiative et l'engagement d'un petit groupe de personnes qui méritent pour cela de l'estime. Et de conclure.
Winton a sauvé des Juifs. Nous-mêmes, nous n'avons pas réussi à sauver ce qu'il n'a pas eu, lui, le temps de sauver. Après la guerre, la plupart des enfants de Nicky ne sont pas revenus dans leur pays natal. Après l'arrivée au pouvoir des communistes en 1948, ceux qui l'ont pourtant fait ont dû se sauver pour la deuxième fois. Il est curieux de remarquer que fuir la Tchécoslovaquie communiste a été d'une certaine manière plus difficile encore que sous le protectorat.
L'édification des grands centres commerciaux en périphérie des villes qui ont connu en Tchéquie un grand boom au tournant du millénaire a considérablement ralenti. C'est ce que constate un texte mis en ligne sur le site aktuania.cz qui signale que, désormais, les nouveaux centres commerciaux vont être prioritairement construits au cœur des villes et dans les nœuds de communication comme les gares ou les stations de métro. Ceux qui se trouvent aux alentours des villes seront ainsi appelés à chercher de nouvelles utilisations. L'auteur de l'article, Lucia Herličková, note à ce sujet.
Plusieurs nouveaux projets ambitieux d'édification de petits centres commerciaux sont prévus à Prague, ainsi qu'à l'échelle nationale, en dépit du fait qu'avec le volume de ces superficies commerciales par tête d'habitant, la Tchéquie domine en ce moment l'ensemble des pays de l'Europe centrale.
L'auteur de l'article remarque que même si le taux de fréquentation des centres commerciaux à Prague et dans les régions ne cesse d'augmenter, il est plus difficile que jamais de leur donner un contenu attrayant face aux exigences croissantes des visiteurs. Proposer une quarantaine de services différents au sein d'un seul centre commercial se présente alors comme un impératif.
Notre émission en français sur Radio Prague se termine. Vous pourrez profiter des émissions spéciales consacrées aux évangélisateurs des pays tchèques Cyril et Méthode ce dimanche, mais également à l'anniversaire des 600 ans du martyr du réformateur tchèque Jan Hus lundi. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.